Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Homo quidam fecit cenam maniam. C'est l'évangile, non pas de cette solennité du Saint-Sacrement, mais l'évangile de la messe du deuxième dimanche après la Pentecôte, qui est célébrée aujourd'hui à 7h30 et à 11h. Et vous la connaissez bien, c'est l'histoire d'un homme qui, un jour, organisa un grand festin, cenam maniam. Il y mit tout son cœur, toute une partie de sa richesse, et il y invita tous ses amis. Mais il fut méprisé par tous. Et cette parabole, mes frères, est très claire. En fait, ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un Dieu, de notre Dieu. Dieu qui, de toute éternité, trouver un bonheur indicible dans une sorte de banquet spirituel où trois personnes en communion parfaite partagent, si l'on ose dire, l'ivresse de la divinité. Mais voilà qu'emporté par sa charité, ce Dieu décide d'ouvrir le festin. Il veut y appeler des amis. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il les appelle à l'existence. Car dans l'éternité, Dieu seul existe. Dieu se fait donc créateur. Dieu crée le temps, Dieu crée l'univers, Dieu crée l'homme. Et tout cela dans un seul but, remplir le festin divin, ce banquet céleste où Dieu donne ce qu'il peut donner de meilleur, lui-même. Car Dieu lui-même sera la nourriture spirituelle des élus. Notre intelligence le verra face à face, elle le pénétrera, elle en sera pénétrée, et elle y trouvera des délices inexprimables. Ah, mes frères, que sont les nourritures de la terre à côté de ce banquet céleste ? Que sont nos viandes, nos fruits, nos boissons matérielles ? À côté de cette jouissance toujours renouvelée et dont nous ne serons jamais rassasiés. Rien, ici-bas, ne peut nous en donner une idée adéquate. Et vous avez certainement remarqué combien cette invitation au banquet éternel revient très souvent dans la prédication de notre Seigneur. Mais pas seulement dans la prédication de notre Seigneur, on peut dire qu'elle est présente dès l'Ancien Testament et même dès le début de la Genèse. Car en fait, qu'est-ce que l'aventure de nos premiers parents, Adam et Ève, au paradis terrestre, sinon déjà notre parabole « Homo quidam fecit cenam maniam ». Mais pour l'apercevoir, il est important, mes frères, de bien voir la situation à l'endroit. Si je vous posais la question, qu'y avait-il d'important pour Adam et Ève dans le jardin du paradis terrestre ? Que répondriez-vous ? N'y aura-t-il pas parmi vous un écervelé pour lever la main et me dire « Mon père, je sais, c'est l'arbre de la science du bien et du mal ». Et si je lui demande « En êtes-vous bien sûr ?», il me répondra « Mais oui, mon père ». C'était le plus important. Adam et Ève ne devaient pas toucher à cet arbre. C'était pour eux le plus important. Mais ce serait là, mes frères, voir la situation à l'envers. Bien sûr, Adam et Ève devaient se détourner de cet arbre qui leur donnerait l'expérience funeste du bien et du mal. Mais ils devaient s'en détourner pour bénéficier du plan divin. Et en particulier d'un autre arbre mystérieux que la Sainte Écriture appelle l'arbre de vie. Et l'appel au festin céleste se trouve là, dès le début de la Genèse, dans cet arbre spécial, on pourrait dire cet arbre liturgique, cet arbre religieux, dont le fruit transmettait tout particulièrement la bénédiction divine. À l'origine du monde, pour Adam et Ève, le culte de Dieu exigeait bien sûr un sacrifice, mais un petit sacrifice, un sacrifice minime qui consistait à s'abstenir d'un fruit pour manifester que l'on préférait Dieu à tout. Mais ce culte divin s'accomplissait surtout dans la mendication d'un autre fruit, celui de l'arbre de vie, qui manifestait de façon positive la soumission de nos premiers parents à leur Créateur. En cueillant ce fruit, ils manifestaient leur dépendance et leur adoration, et ils en mangeaient avec action de grâce. S'ils avaient été fidèles à ce rite, Dieu les aurait un jour transférés dans son festin céleste. Mais vous savez que l'histoire a été différente. Pourtant, Dieu ne nous a pas abandonnés et il n'a pas abandonné son plan. Il veut toujours se donner à nous dans le festin céleste. Et malgré notre indignité, malgré notre ingratitude, il continue à nous poursuivre pour nous pousser presque de force dans la salle du banquet. Pour réparer la faute de nos premiers parents, il a envoyé son propre fils, qui est désormais non seulement le nouvel Adam, mais aussi le nouvel arbre de vie. Et comme Dieu ne permet le mal que pour en tirer un plus grand bien, il nous donne en Jésus bien plus que ce qu'il nous avait donné dans le paradis terrestre. Et il nous le donne non seulement durant la vie terrestre de Jésus, mais encore maintenant dans la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, comme le fruit de l'arbre de vie qui maintenait l'immortalité, est une préparation à l'éternité. Mais elle est une préparation beaucoup plus efficace, et pour au moins trois raisons. D'abord, parce que le choix, l'alternative que nous avons entre la vie éternelle et la mort est beaucoup plus claire pour nous qu'elle ne l'était pour Adam et Ève. Bien sûr, ils avaient entendu Dieu leur dire que le fruit défendu leur procurerait la mort, mais qu'est-ce que cela signifiait? Ils ne le savaient peut-être pas trop. Et cette interdiction, pour eux, n'était encore que des paroles. Quelle proportion entre ce fruit qui paraissait beau à voir et bon à manger et la mort? Mais nous, nous avons vu. Nous avons expérimenté cette suite interminable, non seulement de mort, mais de souffrance intérieure et extérieure, d'injustice, de crimes atroces. Et tout cela est la conséquence de la mendication du fruit défendu. Nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté, et cette vérification effectuée sur un des fruits, le fruit de mort, qui a montré combien la parole de Dieu était juste, nous garantit combien elle est également juste et vraie sur l'autre fruit. Bien sûr, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu nous prépare au ciel. Nous ne pouvons pas l'expérimenter. Quand on nous dit « nous serons heureux en voyant Dieu », nous ne nous rendons pas compte de ce que cela veut dire. On peut nous répéter « ça sera un bonheur inexprimable ». Nous n'en avons aucune expérience. Mais nous avons vu comment s'est réalisée d'un côté la parole concernant le fruit de mort, et nous pouvons, par le fait même, savoir combien se réalisera la parole du fruit de vie. Oui, de même que ce petit fruit a entraîné une suite incalculable de désastres, de même, si nous sommes fidèles à Dieu, si nous recevons fidèlement la Sainte Eucharistie, nous connaîtrons un bonheur qui est également inimaginable ici-bas. Donc, notre foi peut être beaucoup plus forte, beaucoup plus vivante dans notre situation avec la Sainte Eucharistie qu'elle ne l'a été pour Adam et Ève. Et non seulement notre foi, mais aussi notre espérance. Pourquoi ? Parce que dans la Sainte Eucharistie, Dieu lui-même se donne à nous en nourriture. C'est ce que nous avons entendu à l'instant dans l'Évangile, Jésus nous dit « De même que m'a envoyé le Père qui est vivant et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, celui-là vivra par moi. » Autrement dit, nous n'avons plus seulement, comme avaient Adam et Ève, un fruit surnaturel, certes, mais une créature. Non, nous recevons le Créateur lui-même. Nous commençons déjà à avoir cette union avec Dieu, cette union intime, cette pénétration de Dieu qui sera notre bonheur dans l'éternité. Nous ne l'avons pas dans les conditions qui seront celles de l'éternité, donc nous ne pouvons pas encore en jouir de la même manière, mais la réalité est déjà là. Et le fait que Dieu lui-même se soit ainsi fait notre nourriture renforce évidemment notre espérance de la jouissance céleste. Enfin, troisièmement, non seulement nous pouvons ainsi avoir une foi beaucoup plus grande, une espérance beaucoup plus grande, mais également notre charité est renforcée par l'exemple que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, nous a dit saint Paul dans l'épître que nous avons entendue. Et Jésus lui-même avait dit « Faites cela en mémoire de moi ». La Sainte Eucharistie n'est pas seulement une annonce du bonheur céleste, elle est un mémorial, un renouvellement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si quelque chose peut nous exciter à la charité, nous exciter à l'amour, c'est bien cet exemple que nous a donné notre Seigneur. Saint Jean dit dans son épître, « N'aimez pas en paroles seulement, la véritable charité se fait en actes. » Eh bien, Dieu l'a fait avec nous. Adam et Ève pouvaient s'imaginer, pouvaient se dire, « Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ?» C'était déjà une grande ingratitude, ils avaient été créés de rien. Mais enfin, Dieu n'avait pas souffert pour eux. Tandis que nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui, après nous avoir créés, est venu nous racheter et s'est fait lui-même capable de souffrir et a lui-même pris la souffrance pour venir nous sauver. Face à cet exemple de charité qui nous est redonné dans la Sainte Eucharistie, comment ne pas l'aimer en retour ? Alors mes frères, en cette solennité du Saint-Sacrement, excitons-nous à ces trois dispositions essentielles pour bien bénéficier de la Sainte Communion, qui sont tout simplement les trois vertus théologales, foi, espérance, charité. D'abord, excitons-nous à la foi en nous rappelant que nous avons été créés par Dieu, pour le banquet céleste. Et que, à côté de ce banquet céleste, toutes les réalités terrestres ne font que très pâle figure. Ensuite, appuyés sur cette foi, excitons-nous à l'espérance, le désir du ciel, et disons-nous oui, j'en ai non seulement la promesse, mais j'en ai déjà une partie de la réalité, puisque Jésus lui-même, dès maintenant, se donne à moi. Enfin, et surtout, excitons-nous à la charité, car si nous devons espérer aller au ciel pour nous, parce que c'est notre bonheur, nous devons aussi vouloir y aller pour répondre à l'amour de Dieu, ne pas être ingrat, et essayer d'offrir un petit peu quelque chose à ce Dieu qui nous a tout offert. Mettons-nous bien dans ces dispositions, foi, espérance, charité, avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, et essayons de les renouveler à chaque fois que nous voulons communier, de les renouveler avant, pendant, après la Sainte Communion. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.